Donc la question de temps.
Mais ça suppose une énorme confiance, j'ai envie de dire.
La confiance, confiance en soi.
Le faire.
Oui, c'est ça.
Remonte les manches.
Mon Dieu. Je ne suis pas formée.
T'as la rétine.
J'ai formation.
Je vais lâcher les épaules, je vais se poser. Ah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, bah, tu es mis en situation de vulnérabilité, tu dis je ne suis pas formée, donc d'un seul coup, ah, est-ce que je veux bien faire ou pas bien faire ça? On s'en fiche. Voilà, juste lâche tes épaules, voilà, sois présente à moi, je te présente à tous les gens qui sont là, ils sont déjà quand ça change l'ambiance. Bon, bien sûr, présente les gens.
Lâche tes épaules, tu es remonté dans tes épaules.
Merci.
Allez, lâche. Voilà, exactement. Non, lâche encore, tu n'es pas avec moi. Respire, dans le bas du dos, tu es coincé. Décoince ton bas du dos. Non. Ton prénom.
Il s'appelle, je crois qu'il s'agit de mon bas du dos.
Ben oui, parce que je l'ai bien senti. Tu t'es coincé un peu du bas du dos. Ok.
Le talon,
ça,
alors.
Ça, c'est trop bien. Ça, c'est génial.
Descends, relâche les bras, en restant dans cette qualité de présence. En sentant vraiment au milieu de tes mains. Lâche bien. Et au niveau du coude. Parce que l'être humain est toujours plus grand que ce qu'on voit de lui, c'est pour ça qu'on va vraiment comme ça.
Encore. Alors ce qui était très bien, qui était vraiment énorme, c'est qu'à partir du moment où tu as tout lâché, tes mains sont devenues hyper chaudes, alors qu'avant, pas du tout. Et d'un seul coup, je sentais que tes cellules communiquaient avec les miennes, donc ça devenait hyper chaud. Simplement le défaut, tu as un problème d'abandon toi aussi. Et quand tu es là, quand tu es là, tu m'as écrasé les mains parce que tu as dit voilà, je suis arrivé à la fin et je vais bien marquer. Alors que tout le reste était vachement présent et là, d'un seul coup, je sais pas, ça je te dis, tu as un.
C'est allé trop vite.
C'était, autrement, c'était excellent.
Un trait d'impatience.
Le départ, ça va chercher des contracts, mais c'est trop bien.
Et puis même l'ambiance, je trouve. Ça, moi, je sens j'entends. C'est le silence.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on invite à oser. C'est-à-dire, il n'y a pas de capitalisation avant de savoir-faire. C'est tout de suite, si je suis en présence, que j'arrive, même si je suis débutant.
Voilà. Ouais.
C'est ça qui est.
C'est une invitation. Ouais. C'est-à-dire que l'autre peut refuser aussi. C'est important ça, que l'autre peut refuser. Vous savez, il y a des femmes, je parle beaucoup des femmes en ce moment, mais il y a des femmes qui n'ont jamais eu de tendresse dans toute leur vie. Et quand tu arrives à l'hôpital ou que tu arrives en maison de retraite, que tu commences à être justement dans ce toucher qui est respectueux, elles peuvent le refuser. Et c'est violent pour elles. Et il faudra beaucoup de temps pour qu'elles puissent l'accepter. Moi, je pense que c'est le travail, justement, que vous avez fait avec cette femme. C'est-à-dire que le toucher, pour elle, c'était insupportable. Elle, peut-être qu'elle n'a jamais eu ce moment de respect. On a affaire à des femmes de 90 ans, qui n'ont pas eu la même vie que vous, mesdames. Donc, il faut penser à ça, c'est important. Donc c'est une invitation, elle peut refuser.
Mais c'est sûr que moi j'ai vu effectivement des femmes, j'ai ressenti, alors que je ne sais rien de son histoire, mais rien que le fait de la toucher, je sentais que cette femme, elle avait été violentée et que c'était complètement insupportable pour elle. Donc qu'est-ce que je fais moi dans ce cas-là? Je ne peux pas rentrer dans son... Dans ce qui est trop dur pour elle.
Et encore, elle l'exprime.
Elle l'exprime. Elle fait un malaise rien que je la touche parce que c'était complètement insupportable pour elle. Donc il a fallu dépasser ce malaise pour aller la rencontrer quelque part, mais il faut du temps, tu ne peux pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Et se toucher, c'est vrai que à force de le travailler, tu sens plein de choses, quoi. Tu sais l'histoire de la personne. On rentre vraiment dans l'intime de la personne. Et avec la soignante avec qui je travaillais, on a réussi à décoder tout ça. Après, elle a essayé de connaître l'histoire de cette personne. Et effectivement, son histoire était compliquée, quoi. Ouais. Mais finalement, on n'a pas besoin de savoir l'histoire forcément de la personne.
Et il y a une dame adorable qui avait Alzheimer là-bas aux Amandines, que j'allais voir tous les matins, et puis un matin elle me fait signe de, je sais pas pourquoi, elle me reconnaissait, puis, alors que tout le monde disait qu'elle n'avait pas plus sa tête, et un matin elle me fait signe de m'approcher, elle me dit à l'oreille, tu sais, elle m'a encore violée. Alors elle venait d'avoir la toilette, je me dis, oh putain, il y a une aide-soignante qui ne doit pas être très claire dans ses gestes, et en fait non, c'était une femme qui était très très bien, mais pour cette femme, qui ne réagissait jamais à rien, qui ne se plaignait jamais, chaque fois qu'on lui faisait la toilette intime, c'était un viol. Mmh. Mmh. Imaginez quand vous lui faites 2-3 fois par jour. Mmh. Vous vous rendez compte ce qu'elle vit dans le silence, sans se plaindre. C'est une attention. C'est pour ça, cette écoute tactile, elle est hyper importante. Hyper importante pour sentir ça. Mmh. Tu te rends compte? C'était... Merci beaucoup. Hein. Elle était très bien, franchement.
Ça sera bientôt rappelé.
Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps?
Oui.
Ça vous intéresse?
Vers 1h du matin, on s'arrête.
Parce que je voulais vous lire quelques petits textes que j'ai écrits au long des années. Et donc, voilà, si vous permettez, je suis émue parce que de le faire auprès de vous. Mais voilà, je trouve que ça va aller vraiment dans le sens un petit peu de ce qu'on vient de dire là. C'est pas grave.
Et oui, quand on commence à vieillir, c'est le problème.
Oui, c'est plus confortable. J'arrive à lire à deux mains. Et c'est plus. Alors, j'ai commencé le 26 juin 2019, là, pour le coup, celui-là, le texte. Il est mort. C'était dans la chambre 210, je crois. C'est bizarre, parce que si peu de temps après, je ne suis déjà plus très sûre du numéro. Mais je sais son prénom. 2 jours avant son décès, il m'a demandé de l'appeler Jean-Pierre. Assise à côté de lui, moi, je m'attendais à ce qu'il rende son dernier souffle. Lui s'y exerçait, alternant respire, puis pause. Hésitant, entre vie et mort. Jusqu'au bout, il a été lucide, conscient et plein d'humour. Un jour, dans l'un de ses souffles, il m'a semblé qu'il prononçait le mot « cadeau ». Je lui ai demandé « Vous voulez dire cadeau de votre dernier souffle ?» Il m'a souri, puis il a de nouveau arrêté sa respiration. J'ai souri aussi, touché. Le temps s'est suspendu. Une bulle de paix a traversé la pièce. Respire, puis pose. Il prolongeait sa vie. Mais moi, comme il fallait bien que je le quitte, je me suis levée et je l'ai salué. Nous savions, lui comme moi, que nous ne nous reverrions pas. Il a trouvé la force de prononcer le mot « adieu », mais il a tout de suite ajouté « mais au revoir ». J'ai éclaté de rire, conquise. C'était samedi. Lorsque j'ai repris le travail, 2 jours plus tard, on m'a annoncé son décès, survenu la veille dans la fin de l'après-midi. J'ai appris qu'il était mort auprès de sa femme. Calmement, dignement. Samedi 5 décembre 2020, dans la salle de bain de l'hôpital, nous sommes lui et moi, chambre 207. Cette journée était longue. Pour lui, qui est resté plusieurs heures sans bouger, assis sur le fauteuil impersonnel en plastique gris. Pour moi, debout depuis 5 heures du matin, et lourde de toutes les souffrances qui se sont données à voir au gré de mes soins. Nous sommes à présent tous les deux devant le miroir. Il a réussi à faire les quelques pas qui le séparaient de la salle de bain, mais maintenant ses forces le quittent. Il se laisse tomber sur la chaise et croise ses bras sur le lavabo. D'un coup, il attrape la bassine qui sert à sa toilette. Il se la renverse sur la tête, s'en coiffe comme d'un chapeau. Il semble vouloir disparaître tout entier en dessous. Moi, immobile, je le regarde faire. Je crois que je suis en train de devenir fou, me dit-il. Je comprends que cette pensée l'a terrifié et qu'il a cherché où se dissimuler. Dans mon silence intérieur se fait alors une évidence. Non, vous n'êtes pas fou, il n'y a pas d'autre cachette dans cette salle de bain. Mercredi 13 janvier 2021. Elle est de celles et de ceux que j'ai hâte de retrouver ce matin. Pour la seconde fois, chambre 216. Elle est allongée, pliée, devrais-je dire. Elle étreint la barrière, se tourne avec un effort sur son côté droit pour mieux me voir approcher. Ses mains et ses jambes tordues évoquent immanquablement les outrages de la vieillesse. Je pourrais être tentée de fuir cette vision qui se donne à moi, comme dans un miroir que je voudrais déformant. Mais je ne détourne pas le regard. J'aime les vagues que dessine son corps dans les draps, et j'aime l'étincelle dans son regard. Elle plante à présent ses yeux dans les miens et me dévisage. Elle veut savoir à qui elle a affaire. Elle se présente. « J'ai 88 ans, me dit-elle. » Logique, elle demande aussitôt « Où est-ce que je vais après ?» De quel après me parle-t-elle ? L'hôpital ? La mort ? Elle est sourde. Sa voix est presque inaudible. Elle n'a que faire des détours. Son écoute et ses mots vont à l'essentiel. Sa présence remplit tout l'espace. Je la laisse venir jusqu'à moi, me toucher dans mes profondeurs. Oui, ça y est, elle vient de me trouver. Dans un grand sourire, d'une voix devenue claire, elle me dit « Je suis en pays de connaissance ». Moi, je l'ai reconnue dès que je suis entrée dans sa chambre. Elle est un de ces êtres humains qui voient jusqu'au fond de notre âme. Janvier 23, 21. Ses cris m'amènent en hâte dans la chambre 207. Des douleurs vrillent son ventre en coups de lance. En attendant que l'antalgique qui vient de lui être administré fasse son effet, je lui accorde la présence qu'elle réclame si fort. Assise à côté d'elle, je lui propose une discussion qui, je l'espère, la détournera un temps de cette souffrance qui la cloue. Je la questionne sur des choses que je veux légères, je la vois chercher dans ses souvenirs, avec effort, avec application. Cela lui prend du temps, elle me prévient, j'ai oublié tant de choses. Ce qu'elle veut savoir, c'est où elle est maintenant. Alors je lui demande ce qu'elle en sait. Elle regarde le mobilier autour d'elle. « Je suis à l'hôpital », répond-elle. « Mais où suis-je ? » me demande-t-elle encore une fois. Alors moi, je l'invite à regarder les collines qu'on aperçoit au loin par sa fenêtre. Je lui parle du grand fleuve qui coule au milieu et du vin merveilleux qui se fabrique sur les coteaux. Elle s'illumine et elle me dit « Je suis à Vienne ». Je lui explique qu'elle a été hospitalisée parce qu'elle est malade. Et moi, je lui demande si elle sait ce qui la rend malade. « Oui, me répond-elle, je sais, il se passe quelque chose dans mon corps. » Ses paupières se ferment, la lutte contre la douleur et l'effort pour parler l'ont épuisée. Je la quitte sur la pointe des pieds en me disant qu'elle a oublié qu'elle sait beaucoup plus de choses qu'elle ne le pense. Et le dernier, 8 février 21. Cette fois, c'est à l'EHPAD. C'est une petite femme toute ronde. Son regard et ses cheveux sont noirs comme le jais. Le repas est terminé. Avant la sieste, comme d'habitude, je l'installe aux toilettes. Je m'apprête à l'attendre à l'extérieur, mais cette fois-ci, elle me retient. Son accent andalou se met soudain à s'agiter dans un flot de paroles et elle me raconte son exil. Elle me confie son chagrin d'être si loin de ses enfants, de son fils surtout. Elle se désole de cette vieillesse qui la rend tellement dépendante et qui l'oblige à être accompagnée dans les soins les plus intimes. Elle se sent si seule, si triste, et ses prières au bon Dieu qu'elle fait tous les jours. Pourquoi ne lui apporte-t-elle pas le secours qu'elle demande ? Est-ce qu'il l'aurait oublié lui aussi ? Ses mots se précipitent à toute vitesse, l'essoufflent, mais c'est tant pis. Pour une fois qu'elle a un interlocuteur, elle se vide de trop de silence. Son récit nous emporte dans le passé. Ensemble, nous traversons les années. Pour cette fois, elle a tout dit. Sa miction terminée, je l'aide à se relever et à se rhabiller. Puis nous ressortons, l'air de rien, et nous reprenons le cours du temps. Soulagées toutes les deux, en moins de 10 minutes.
Très beau ce texte.
Magnifique, hein.
Merci à vous de l'avoir.
Merci.
Voilà, c'était une manière aussi de dire que le soin, pour moi, il est aussi là. tout ce qui se passe.
On peut boire quelque chose ?
On va boire des coups. On va clore avant de boire, on va clore la soirée. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. Ouais. Et puis moi, ça me donne, ça me met au travail vraiment. Et je pense que ça arrive au bon moment dans l'ethnocafé cette soirée. Et on en discutera avec Liam. J'ai envie de vous revoir. Et peut-être dans cette idée qu'on a de travailler des pratiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Donc merci.
Ça m'a beaucoup touché.
Merci. Tu vas changer ta pratique, Jean, alors ?
Je vais changer ma pratique.
Tu commenceras par un peu de...
Voilà, il y aura le petit tabouret blanc. J'appellerai
un collègue. C'est celui qui fait tout, en fait.
Voilà, j'appellerai mes amis, Jean-Louis et Annick, et tout va bien se passer.
Entre chaque passion.
Alors, juste...